Le progrès, disait Prévert, trop robot pour être vrai. Voilà sans doute le genre de pensée qui a pu traverser l'esprit de certains à l'annonce du premier accident responsable de la Google Car. La Google Car, vous savez, c'est cette voiture autonome, soit un robot sur quatre roues, dont les constructeurs nous rappellent avec une certaine insistance que, à la différence d'un automobiliste humain, un robot, ça ne se met jamais en colère, ça ne boit pas, ça ne quitte jamais la route des yeux pour expliquer aux enfants qu'on ne joue pas à coucou-beu avec papa, c'est très dangereux, et que ça n'envoie pas de texto à leurs proches pour leur dire « je ne peux pas te répondre, je suis en train de conduire ». Et pourtant, d'autres accidents ont eu lieu, dont l'un mortel, causé par la voiture d'un autre constructeur, dont les capteurs n'avaient pas su identifier un camion blanc sur une route ensoleillée. Je m'appelle Cédric Coulon, je suis juriste et je m'intéresse depuis ces mêmes accidents à la responsabilité du fait des robots, soit à la question de savoir qui, demain, répondra des dommages causés par les choses intelligentes. Alors je dis demain parce que la question est loin d'être tranchée, ce même dans les cas les plus simples. Je vais prendre un exemple d'accident, qui avait d'ailleurs été recensé par Google, mais celui-là avait été sans gravité. Alors déjà, précisons qu'en fait, de voitures autonomes, il s'agit surtout de voitures semi-autonomes, auxquelles on n'a pas été jusqu'à retirer le volant et les pédales, même si des prototypes de ce genre existent déjà. Ici, le conducteur arrivait à une intersection. Et craignant que la voiture ne freine pas suffisamment tôt, ou qu'elle ne freine pas du tout, il décide d'appuyer sur la pédale de frein. Ceci étant, l'action combinée du conducteur à celle du véhicule qui, bien entendu, avait négocié l'intersection, eh bien, conduit la voiture à s'arrêter brutalement et à se faire engloutir à l'arrière par l'automobiliste qui la suivait. Alors, dans ce cas-là, la réaction du constructeur, elle est toute trouvée. C'est la faute du conducteur. Il est fautif de ne pas avoir cru capable, un robot, de veiller à sa propre sécurité. Sauf qu'en droit, ce n'est pas aussi simple que ça. Oh, il y a bien une règle récente qui autorise l'introduction des machines autonomes sur nos routes. Mais à la condition, nous dit le texte, que le conducteur en ait le contrôle permanent. Et ce texte dont je vous parle, c'est un traité international qui ambitionne d'harmoniser la réglementation routière entre pas moins de 84 pays. Alors, vous saisissez l'écueil que soulève la réaction du constructeur. Comment est-ce qu'on peut tenir le conducteur pour fautif, alors que légalement, il est censé avoir le contrôle permanent de la voiture. Cet exemple, il préfigure, à mon avis, la réalité de demain. La réalité de demain, c'est que plus on autonomisera les choses, plus il sera difficile de trouver un responsable derrière les dommages qu'elle viendrait à causer. Ça vaut pour les voitures autonomes, ça vaut aussi, pourquoi pas, pour les robots humanoïdes, vous savez, ceux qui attendent patiemment de quitter les ateliers où ils restent aujourd'hui largement cantonnés, mais qui sont déjà en passe de mériter leur galon de robots compagnons, de robots auxiliaires de vie, de robots sexuels, il en existe déjà. Le problème, c'est que pour l'instant, ni le droit français, ni le droit européen ne font la différence entre ça et ça. Ou encore entre ça et ça. Il n'y a rien, pas un critère juridique qui permette de distinguer le robot du tout venant des machines, ceci alors même qu'on commence tout juste à s'éveiller aux difficultés qui surgissent lorsqu'on prétend doter des machines, non pas seulement de facultés à se mouvoir par elles-mêmes, comme notre robot aspirateur ou le robot tondeuse, ils ne sont pas bien méchants ceux-là, mais surtout de facultés cognitives, c'est-à-dire de facultés à apprendre, à analyser, à prendre des décisions. Vous savez, c'est l'exemple type qui nourrit les fantasmes de ceux qui s'inquiètent de ce qu'on délègue demain tout pouvoir de décision à des voitures. En cas d'accident inévitable, est-ce que l'algorithme qui commande les décisions du véhicule calculera froidement les chances que survive l'enfant passager plutôt que ses parents assis aux places avant ? À terme, la voiture autonome pourrait ainsi devenir l'agent moral des automobilistes dans des conditions que la technologie, mais aussi le droit, devront s'efforcer de définir. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est le droit qui fait avancer la technologie. En revanche, ce qui est certain, c'est que sans le droit, on n'y arrivera pas. Sans le droit, la technologie ne trouvera aucune légitimité. Et cette légitimité, elle passe nécessairement par l'invention de solutions nouvelles pour appréhender les risques liés au développement de la robotique cognitive. Pour l'heure, aucune des règles actuelles ne semble adaptée. Il y en a une bien connue qui veut que le fabricant soit responsable des dommages causés par les défauts des produits qu'il commercialise. Alors, voilà une règle aussi naturelle qu'elle est simple à justifier. Et pourtant, là encore, c'est l'autonomie cognitive qui risque d'en faire apparaître les limites. Prenons l'exemple des robots auxiliaires de vie. Il en existe plusieurs. Certains sont doués pour transporter leur maître d'une pièce à l'autre de son appartement. D'autres pour effectuer des tâches ménagères, pour l'instant assez simples, mais ce n'est pas grave, ces robots ils vont apprendre des tas de choses dans les années à venir et au gré de leur nouvelle version. Alors supposons maintenant que l'un de ces robots cause un dommage à son utilisateur. Tout le problème lié à la règle suivant laquelle le fabricant est responsable des dommages causés par les défauts des produits qu'il met en circulation. C'est que, précisément, il n'est responsable que pour autant que ce défaut existait au moment de cette mise en circulation. Or, à considérer des choses évolutives, qui s'adaptent, qui changent, eh bien, on devra conclure rapidement que le dommage qui aujourd'hui a été causé l'a été par une chose différente de celle qui avait été précédemment mise en circulation quelques semaines ou quelques mois plus tôt, puisque le robot il a évolué entre-temps. Et voilà la porte grande ouverte aux constructeurs qui souhaiteront échapper à leurs responsabilités. À vrai dire, les juristes n'ont pas fini de s'arracher les cheveux. Que se passera-t-il, par exemple, en cas de revente du robot ? Vous savez, de la même manière que certains d'entre nous, moi le premier, ont pu pester un jour contre la façon dont l'ancien propriétaire d'une voiture en malmenait le boîtier de vitesse, on en viendra peut-être demain à pester contre la façon dont l'ancien propriétaire d'un robot en faisait usage et au fond, de la mauvaise éducation qu'il lui donnait, exactement comme on nous reprocherait de mal éduquer nos enfants. Bref, on ne saura jamais vraiment sur quoi on tombe, alors faites bien attention à qui pourrait un jour sonner à votre porte pour proposer ses services. Quoi qu'il en soit, permettre à un robot de s'adapter à son usager, c'est déjà admettre que celui-ci exerce une influence sur son comportement. Alors pourquoi ne pas se tourner plutôt vers cet usager en convoquant le fondement traditionnel de la responsabilité civile ? C'est le critère de garde. Ce critère de garde, il est aussi ancien que le Code civil, 1804, Code civil qui énonce toujours que le maître est responsable de son animal parce qu'il doit le contrôler, il doit le surveiller, il doit le garder. Et à la faveur de la révolution industrielle, à la fin du 19e siècle, ce critère de garde, il s'est élargi à toutes sortes de machines. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout pouvoir, tout simplement, d'usage, de contrôle et de direction qu'une personne détient sur une chose. Alors oui, on pourrait être tenté de raisonner par analogie et de comparer notre robot à un animal. Sauf que cette solution, elle contredit l'usage et l'essence même du robot, qui est précisément de se débrouiller tout seul en satisfaisant au mieux les intérêts de son utilisateur. Le parallèle peut être fait avec les drones de loisirs. Il y a une loi récente qui date de 2016 et qui fait désormais obligation aux propriétaires de tels drones de suivre une formation obligatoire, notamment pour se familiariser avec les règles applicables en matière de survol de zones peuplées. Mais la raison d'être de cette formation obligatoire, c'est que précisément, il ne s'agit pas d'un robot, mais de choses qui sont télépilotées par l'homme. À l'inverse, si on reprend l'exemple de nos robots auxiliaires de vie, l'argument qui présidera à la commercialisation et au succès de telle machine tient au fait que l'usager n'aura plus qu'à se soucier des ordres qu'il pourra leur donner et plus du tout de la façon dont elles s'y prennent pour les exécuter. Et finalement, ce qu'on appelle le droit de la consommation, vous savez, le droit de la consommation et sa finalité, c'est de protéger les consommateurs, notamment en les informant. Eh bien, le droit de la consommation devra peut-être composer avec un paradoxe inquiétant, puisque plus on autonomisera les choses, plus elles seront complexes, mais moins on aura besoin de les comprendre, à la différence de notre pilote de drone qu'on cherche à responsabiliser davantage. Alors, vous saisissez surtout à quel point le critère de garde est ici inadapté. Du moins, c'est plus tant l'homme qui garde la machine, mais la machine qui garde l'homme en satisfaisant à des besoins qu'il n'est plus capable de satisfaire lui-même, voire en faisant preuve sur lui d'autorité quand il s'agira, par exemple, de lui refuser un médicament qu'il a déjà pris dans la journée. Alors, résumons. D'un côté, la responsabilité du constructeur, qui paraît naturelle, mais qu'on aura de plus en plus de mal à justifier au fur et à mesure que les choses s'autonomiseront et qu'elles révéleront des défauts qui n'existaient pas au moment de leur mise en circulation. Et puis de l'autre, la responsabilité de l'usager, qui est tout aussi critiquable dans la mesure où, a priori, ce n'est pas à lui de comprendre et de contrôler une chose qui est censée se débrouiller toute seule. Alors il resterait bien une troisième voie, à laquelle certains ont pu penser, la responsabilité du robot, évidemment. La responsabilité du robot qui suppose qu'on cède au mythe du robot personne, c'est-à-dire qu'on l'affuble d'une personnalité juridique comme vous et moi, ou tiens, comme une entreprise. Une entreprise, on l'inscrit au registre du commerce et des sociétés, on lui affecte un capital. Eh bien, c'est exactement sur cette voie-là que s'est engagé il y a déjà plusieurs années l'État du Nevada aux États-Unis, en répertoriant systématiquement ses voitures autonomes sur un fichier dédié, et puis en leur affectant un capital qui pourrait servir d'assurance en cas d'accident. À mon avis, on n'a pas besoin de s'embarrasser avec une telle solution lorsqu'il suffira de reporter le poids de l'assurance sur les épaules du constructeur ou sur celles de l'usager. Ça coûtera pratiquement plus rien puisqu'il n'y aura pratiquement plus d'accidents. Mais surtout, cette solution, elle me paraît terriblement dangereuse. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est la personnalité juridique ? C'est l'aptitude à être titulaire de droit. L'aptitude à être titulaire de prérogatives juridiques. Alors, est-ce qu'on en viendra demain à considérer que notre robot mérite d'être protégé dans son intégrité physique, dans sa vie privée, dans les œuvres d'art qu'il pourrait créer ? Personnellement, je ne l'espère pas, et en tout cas, cet avenir-là me semble très improbable. Imaginez. En droit français, on a mis plus de 2 siècles à admettre que les animaux n'étaient pas des choses, mais des êtres vivants doués de sensibilité, sans pour autant en faire des personnes. Combien de temps faudra-t-il avant qu'on admette que des machines, soit des êtres non vivants, méritent une telle personnalité ? Alors, vous l'avez compris, je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on reconnaisse des droits aux robots. En revanche, je suis bien davantage à l'émergence et au développement d'un droit des robots. Un droit des robots placé sous le signe de la prudence, voire de la défiance vis-à-vis de ces choses dont les capacités extraordinaires les portent à disputer à l'homme son autorité. Ce droit des robots, je le définirais comme l'ensemble des règles destinées à organiser l'introduction des machines autonomes dans la vie sociale. Je vous ai parlé aujourd'hui du droit de la responsabilité civile. J'aurais pu vous parler d'autres matières, comme le droit des incapacités. Faudra-t-il que demain, le juge des tutelles se prononce sur l'opportunité de dépêcher un robot auxiliaire de vie au chevet d'une personne dépendante, surtout si elle souffre de troubles mentaux? C'est une vraie question. Alors, on le voit, ce droit des robots, il n'existe pas encore, mais c'est déjà la réalité d'aujourd'hui, en tout cas celle de demain. Mais pour l'instant, ne craignez rien. Si un jour, vous décidez d'acquérir un robot sexuel et que, par une longue soirée d'hiver, vous y allez un peu fort, parole de juriste, tout ce que vous risquez, c'est de faire sauter la garantie. Merci.